Laudetur Jesus Christus.
La première qualité de Joseph est sa justice, le pape François l'a rappelé ce matin lors de l'audience générale. Poursuivant son cycle de catéchèse sur l'époux de la Vierge Marie, le Saint-Père a invité les fiancés à suivre son exemple. On y revient juste après les titres. Le président ukrainien appelle à des négociations directes avec la Russie pour arrêter la guerre. Il s'exprimait alors que les tensions entre les deux pays perdurent. Kiev accuse Moscou d'avoir massé plusieurs dizaines de milliers de soldats à ses frontières. L'Union européenne pourrait mettre un terme à sa mission de formation des forces armées centrafricaines. C'est ce qu'elle a fait savoir suite à la publication d'un rapport de la diplomatie européenne sur la Centrafrique qui met en relief l'emprise du groupe russe Wagner sur le pays. Les sadristes remportent les législatives irakiennes. La commission électorale a annoncé hier les résultats définitifs. Avec 73 sièges, le courant du leadership Muqtada Sadr devient le premier bloc au Parlement. L'alliance de la conquête pro-Iran ne remporte-t-elle que 18 sièges. Les tractations politiques vont maintenant débuter.
Radio Vatican, le journal, Hélène Détombe.
Bonjour, le pape François a poursuivi lors de l'audience générale, salle Paul VI ce matin au Vatican, son cycle de catéchèse sur Joseph. Il a invité à cultiver une vie juste à l'image de celui qui était fiancé à Marie. L'occasion pour le Saint-Père d'adresser un message aux futurs époux. Les précisions de Xavier Sartre.
Qu'est-ce que Joseph a à nous dire aujourd'hui ? Le pape, avant de l'expliquer, est revenu sur une dimension essentielle du fiancé de Marie. Joseph est ainsi un homme juste, comme le dit Matthieu dans son évangile. D'abord parce qu'il est fidèle à la loi, ensuite parce qu'il répudie Marie en secret, alors qu'il aurait pu le faire en public, grâce à son amour pour elle et sa confiance en elle. Ensuite parce qu'il comprend, après que l'ange du Seigneur lui a parlé, combien il est important pour chacun de nous de cultiver une vie juste et en même temps de sentir que nous avons toujours besoin de l'aide de Dieu. Derrière certaines circonstances de la vie dramatique au départ, se cache la Providence. Jésus fait l'expérience que notre vie n'est pas telle que nous l'imaginons, et c'est le cas en amour. Après le coup de foudre, comment va-t-il évoluer ?
Facciamo fatica a pensare a passare dalla logica dell'innamoramento.
Nous avons du mal à passer de la logique du coup de foudre à celle de l'amour mature, note le pape. Aimer, ce n'est pas attendre de l'autre ou de la vie qu'il corresponde à notre imagination. C'est plutôt choisir en toute liberté d'assumer la vie telle qu'elle nous est offerte. Passer à l'amour mature est un choix exigeant, concède-t-il, qui, au lieu d'emprisonner la vie, peut renforcer l'amour pour qu'il soit durable face aux épreuves du temps, notamment des disputes. Que les époux se disputent, c'est notre pain de chaque jour, affirme-t-il. Mais ne jamais finir la journée sans faire la paix, parce que la guerre froide du jour d'après est très dangereuse, précise-t-il.
Xavier Sartre, et au terme de l'audience, le pape a évoqué la journée mondiale contre le sida. C'est une occasion importante pour se souvenir des nombreuses personnes affectées par ce virus, a déclaré le Saint-Père, appelant à un engagement solidaire pour garantir des traitements sanitaires équitables et efficaces. Le pape a également parlé de son prochain voyage à Chypre et en Grèce, deux pays riches d'histoire, de spiritualité et de civilisation. Ce sera un voyage aux sources de la foi apostolique et de la fraternité entre les chrétiens de diverses confessions. J'aurai aussi l'opportunité d'approcher une humanité blessée dans la chair de tant de migrants en quête d'espérance, a ajouté le Saint-Père en citant une de ses étapes Lesbos où il se rendra dimanche. Ce voyage est à suivre dans nos journaux et dès à présent sur notre site internet à l'adresse vaticannews.va. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky souhaite tenir des négociations directes avec Moscou pour mettre fin au conflit qui sévit depuis 2014 dans le Donbass. Des déclarations dans un contexte fébrile, la Russie accuse à son tour les autorités ukrainiennes de masser des troupes dans l'est du pays et de saboter le processus de paix en cours depuis 2015. Jean-Didier Revoin.
Difficile d'imaginer que Moscou négociera directement avec les autorités ukrainiennes pour résoudre la crise du Donbass. D'abord, la Russie a toujours démenti toute implication dans une crise qu'elle considère être un conflit intérieur à l'Ukraine, une façon de mieux renvoyer Kiev vers les séparatistes pour négocier. Ensuite, les réactions des autorités russes à l'appel lancé par le président ukrainien sont plutôt sèches. Si Vladimir Poutine a démenti hier toute velléité belliqueuse de la Russie, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères a accusé Kiev d'avoir massé 125 25 000 hommes et des équipements lourds aux frontières de la Russie. Maria Zakharova n'a pas hésité non plus à asséner que les exercices militaires prévus l'année prochaine par Kiev, en présence de troupes étrangères, n'étaient rien d'autre qu'une tentative de saboter le processus de paix. Quant au chef de la diplomatie russe, il a dénoncé une politique destructrice de l'OTAN qui veut attirer l'Ukraine dans son orbite et en faire un pays anti-russe. Mais Sergueï Lavrov a prévenu, Moscou continuera à répondre à toute démarche inamicale. Jean-Didier Revoin, Moscou pour Radio Vatican.
Et c'est dans ce climat de tension entre la Russie et l'Ukraine que le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, rencontrera demain à Stockholm son homologue russe, Sergueï Lavrov. Le Royaume-Uni et la Belgique s'engagent à renforcer la coopération entre leurs pays, notamment pour lutter contre l'immigration illégale. Une déclaration a été signée ce mercredi par le Premier ministre britannique Boris Johnson et son homologue belge, Alexander De Croo, une semaine après la mort de 27 migrants dans la Manche. L'Union européenne présente sa réponse pour contrer l'influence chinoise. Bruxelles a fait savoir ce 1er décembre qu'elle souhaitait mobiliser jusqu'à 300 milliards d'euros de fonds publics et privés d'ici à 2027 dans des projets d'infrastructures à travers le monde. C'est officiel, en Irak, le courant du leader chiite Moqtada Sadr remporte les législatives anticipées du 10 octobre dernier. Les résultats définitifs ont été publiés hier. Les sadristes constituent désormais le premier bloc au Parlement avec 73 sièges. Les explications d'Anne-Sophie Lemoff.
La commission électorale a confirmé hier la victoire du courant sadriste dirigé par le religieux et nationaliste chiite Moqtada al-Sadr. Avec 73 sièges, il devient ainsi le premier bloc au Parlement. Des résultats que réfute catégoriquement l'Alliance de la Conquête, l'aile politique des unités de mobilisation populaire, une force armée de plus de 160 000 hommes engagés dans la lutte contre Daesh et intégrés aux forces irakiennes. Ces forces pro-Iran ont accusé la Commission d'avoir truqué les résultats et assuré qu'elle poursuivrait l'action intentée en justice dans le but d'obtenir l'annulation du scrutin du 10 octobre. L'Alliance de la Conquête est passée de 48 à 18 sièges parlementaires. Elle bénéficie toutefois de l'appui de taille de l'ex-premier ministre chiite Nouri al-Maliki, dont la coalition État de droit a remporté 33 sièges au Parlement. C'est dans ce climat politique délétère que ces résultats définitifs vont être envoyés au tribunal fédéral pour y être entérinés. Viendra ensuite la désignation du président de la République. Ce n'est qu'au terme de longues et houleuses négociations politiques que sera formé le nouveau gouvernement. À Bagdad, Anne-Sophie Lemoff pour Radio Vatican.
Le président turc défend sa politique financière. La Turquie est sur un chemin risqué mais juste pour l'économie, a affirmé ce matin Recep Tayyip Erdogan. Il a ainsi justifié sa position controversée d'abaisser les taux directeurs malgré la chute de la livre turque qui a perdu près de 30% de sa valeur face au dollar en un mois et l'inflation élevée. Notre pays ne retournera plus jamais au système d'exploitation basé sur les taux d'intérêt élevés, a déclaré le président turc. La présence du groupe Wagner en Centrafrique pourrait conduire l'Union européenne à mettre un terme à sa mission de formation des forces armées locales. C'est ce qu'a indiqué la porte-parole du chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell. Des déclarations suite à la publication d'un rapport de la diplomatie européenne sur la Centrafrique qui met en relief l'emprise du groupe russe sur le pays. En Éthiopie, les forces pro-gouvernementales poursuivent leurs opérations contre les forces tigréennes. Le gouvernement a annoncé ce matin avoir repris aux rebelles du Front de libération du peuple du Tigré plusieurs localités sur la route menant à la capitale Addis-Abeba. Le Premier ministre Abiy Ahmed avait annoncé la semaine dernière mener une contre-offensive contre les membres du TPLF qui, en juin dernier, après avoir repris l'essentiel du Tigré, ont poursuivi leur avancée dans les régions voisines de l'Afar et de l'Amara. Ce conflit qui a débuté il y a plus d'un an a fait plusieurs milliers de morts, 2 millions de déplacés et plongé des centaines de milliers d'Éthiopiens dans des conditions proches de la famine, selon l'ONU. Les voyageurs en provenance du Nigeria, du Malawi et de l'Égypte sont interdits d'entrer au Canada. Une réponse d'Ottawa face à la menace que représente le nouveau variant Omicron du coronavirus. Au total, 10 pays africains sont sur la liste rouge des autorités canadiennes. L'Organisation mondiale de la santé a jugé hier inutiles les interdictions de voyage pour endiguer la propagation du nouveau variant. C'est ainsi que se referme cette édition. Merci de votre écoute. Prochain rendez-vous ce soir à 18h en compagnie de Marine Henriot. Très bel après-midi, au revoir.